Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Bonjour et bienvenue sur Tonnerre de Brecht. Bonjour Martin.
Bonjour Léa. On se retrouve cette semaine en belle compagnie pour parler théâtre puisque nous sommes avec Alexis Fichet, auteur et metteur en scène du collectif Lumière d'Août qui vient de publier son premier roman, L'Andréide, aux éditions La Mer Salée.
On retrouve Alexis Fichet pour une occasion particulière. Le Théâtre du Cercle nous propose ce week-end, dimanche 9 mai, une balade littéraire rythmée par deux textes, dont ce roman tout frais, et la pièce de théâtre de Ronan Mansec, Le gardien de mon frère. Pour nous en parler davantage, nous sommes donc en compagnie d'Emmanuelle Paty-Lacour, coordinatrice du Théâtre du Cercle et de l'événement.
Bref, on va parler de moult choses et en plus, à la clé, un spectacle. Si c'est pas extraordinaire ça.
Oui, mais avant ça, comme d'habitude, on fait une petite pause actu.
L'Arène Théâtre vous propose ce week-end un atelier art-thérapie mené par Hortense Bison, directrice artistique de la compagnie Des Humanités et étudiante en master création artistique art-thérapie à l'Université Paris-Descartes. Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer, le stage est ouvert à toutes et à tous. Il repose sur l'idée d'utiliser un médium, en l'occurrence l'art, pour travailler sur soi. Elle peut être utilisée dans le cas de pathologie mentale ou après avoir vécu un traumatisme. Elle permet d'améliorer sa confiance en soi, libérer des émotions, s'ouvrir aux autres ou encore lutter contre l'anxiété. Cette formation n'est pas une thérapie, elle apporte des notions sur ce qu'est l'art-thérapie et sur le métier d'art-thérapeute. C'est ce week-end Arène 2, inscription possible sur le Facebook de l'Arène Théâtre.
L'agenda de Rennes au pluriel est désormais disponible. Ce rendez-vous annuel se déroule cette année en ligne, mais la programmation n'en est pas moins riche. Au programme théâtre, musique, photographie, table ronde, et tout cela autour de la diversité. Vous pouvez notamment retrouver l'exposition Color Only Project, une exposition photographique que l'on doit à Hélène Jaillet et dont vous pouvez déjà profiter puisqu'elle a lieu sur les murs de l'Université Rennes 2. Rennes au pluriel, c'est du 10 au 28 mai, en ligne, mais pas que. Et le programme est disponible dès maintenant. Et avant d'en savoir un peu plus sur tout ce beau monde présent avec nous dans les studios de Syllab, on vous propose une petite pause musicale. Martin, qu'y a-t-il au menu de ce soir ?
Une mise en bouche musicale choisie par notre invité fantôme, Ronan Mansec. L'orage est fini de Brigitte Fontaine et Areski Belkacem.
Quand l'orage est fini, nous nous couchons. Pour mourir de douceur sur des montagnes en cendres, tout est pâle et nous sourions jusqu'au bout du monde, nos mains usées jusqu'à la chair.
C'était L'orage est fini de Brigitte Fontaine et Areski Belkacem. Vous êtes toujours sur Syllab dans Tonnerre de Brecht, votre émission hebdomadaire qui parle des arts vivants. Aujourd'hui, nous sommes donc en compagnie d'Alexis Fichet, auteur et metteur en scène du collectif Lumière d'Août, et Emmanuelle Paty-Lacour, coordinatrice du Théâtre du Cercle, pour leur balade littéraire de ce dimanche, où vous pourrez entendre des extraits de la pièce Le gardien de mon frère de Ronan Mansec et du roman de notre invité. Pour y assister, n'oubliez pas de réserver sur le site du Théâtre du Cercle. La réservation y est obligatoire puisque la jauge est limitée.
Alors, un théâtre et une compagnie, c'est deux choses qui sont relativement différentes et qui sont pourtant amenées, comme on le voit, comme on va le voir dimanche, qui sont pourtant amenées à travailler ensemble. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler de vos structures respectives ? Emmanuel, comme vous.
Alors déjà dire qu'un théâtre n'existerait pas sans les compagnies et sans les artistes, et peut-être que vice-versa, les artistes ne pourraient peut-être pas diffuser et faire vivre leurs œuvres si les structures culturelles n'étaient pas à leur côté. Donc le Théâtre du Cercle, c'est un lieu dédié aux écritures théâtrales qui est basé à Rennes et qui a la particularité de mettre en lien la pratique amateur et la pratique artistique.
Très bien, merci.
Et Alexis ?
La structure Lumière d'Août, c'est un collectif d'auteurs. Donc effectivement, on est une compagnie, donc on joue dans les théâtres comme le Théâtre du Cercle. Et on est une compagnie qui a cette spécificité d'être fondée par un groupe d'auteurs, donc des gens qui se définissent d'abord par l'écriture, et parce que certains des membres du collectif font assez peu de théâtre finalement et se définissent d'abord comme auteurs de récits ou d'essais. Et on s'est rencontrés ici à la fac à Rennes 2 d'abord. Et voilà. Et après, on est devenu une compagnie, c'est-à-dire avec tout ce qui consiste à produire des spectacles, à engager des acteurs, etc.
Vous faisiez quoi comme formation à Rennes 2?
Alors moi, j'ai fait que lettres modernes. Juliette Pourquerie de Boisserin a fait lettres classiques, médiévales, littérature médiévale. Elle a fait une thèse de littérature médiévale. Et les quatre autres ont fait lettres. Et pour Marine Bachelot-Nguyen et Alexandre Kouchevski, ils étaient en même temps en lettres et en art du spectacle.
Ok. Mmh.
Et Emmanuel, tu voulais réagir aussi ?
Bah moi aussi, je suis en scène de Rennes 2. J'ai commencé Lettres modernes à Rennes 2 il y a quelques années.
D'accord.
Donc tout le monde a fait Lettres modernes à Rennes 2.
Parfait.
Tout le monde a fait Rennes 2.
Oui. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos missions à l'intérieur de ces deux institutions qui n'ont, rappelons-le, pas la même fonction ? Alexis, par exemple.
Alors donc, une compagnie, c'est plus directement fondé par les artistes, puisque là, en l'occurrence, donc, c'est des auteurs qui l'ont fondé. Donc nous, l'objet de l'association, puisque c'est une forme d'association, c'est de diffuser les écritures contemporaines d'auteurs vivants. Donc nous, on travaille à ça, les nôtres et parfois celles d'autres gens. Donc ça passe par des commandes à des auteurs, ça passe par des envies de mettre en scène des textes qu'on découvre par d'autres biais. Et voilà. Et du coup, les missions à l'intérieur de ça, moi, je suis auteur, donc j'écris des textes qui parfois sont montés dans le cadre de Lumière d'Août. C'est souvent moi qui mets en scène mes propres textes. Et après, y a l'animation d'une compagnie avec aussi tout le volet atelier, le volet lecture, performance. Et c'est dans ces cas-là, par exemple, qu'on peut se tourner vers des lieux comme le Théâtre du Cercle, aussi bien parce qu'on fait des ateliers au Théâtre du Cercle que parce qu'on y propose des formes spectaculaires.
Emmanuel, du coup ?
Alors moi, plus au titre de coordinatrice, je préfère celui de mise en relation. Et donc, mon rôle au Théâtre du Cercle, c'est de mettre en relation des œuvres et des gens qui aiment et qui font du théâtre. Donc, pour moi, le mot amateur, c'est celui qui aime. Et donc, l'idée, c'est de mettre en lien des artistes qui vont proposer une œuvre, un univers artistique à des gens qui aiment ou faire du théâtre, et donc ils vont faire des ateliers de pratique, ou qui aiment voir du théâtre, donc ils vont venir voir des spectacles de ces artistes.
Et du coup, dans Lumière d'Août, on compte aussi Marine Bachelot-Nguyen, comme on l'a dit juste avant, qui a été notre invitée pendant le festival Fantôme du TNB, dont le podcast est disponible sur le site de Syllab. Vous ne travaillez donc pas toujours avec toutes les personnes du collectif, parce que vous n'êtes pas dans le spectacle Aquila, par exemple. Et de la même manière que Marine Bachelot-Nguyen ne travaille pas forcément sur vos spectacles, comment est-ce que vous fonctionnez pour vos projets ? Est-ce que vous les portez individuellement et le collectif les accepte ? Est-ce que vous créez des projets ensemble et après ça s'individualise un peu ?
Alors oui, c'est une des complexités de Lumière d'Août. On aurait voulu faire plus de choses ensemble, en fait. Et après, l'histoire fait que souvent, c'est plus facile aussi de produire des spectacles avec des identités très marquées. Et on a fait des choses ensemble. Marine et moi, par exemple, dans les premières choses qu'on a fait à Lumière d'Août, Marine avait commandé des courtes pièces politiques et on les a mis ensemble, en scène ensemble, Marine et moi. Donc on a pris 6 textes du collectif, plus une autrice roumaine, Gianina Carbunariu, et c'est Marine et moi qui avions fait la mise en scène. Donc ça, c'était un projet commun avec tous les auteurs du collectif. Et par ailleurs, c'est vrai que maintenant, il y a une majorité de pièces qui sont des productions d'un auteur ou d'une autrice qui met en scène son propre texte. Ce que Marine fait, ce qu'Alexandre Kouchevski fait et ce que je fais aussi. Alors moi, j'ai une spécificité, c'est que je travaille assez souvent avec Nicolas Richard, qui est le quatrième de la bande dans ceux qui font vraiment du théâtre, et qu'on co-écrit des spectacles, on joue ensemble dans des spectacles aussi. Mais c'est vrai que du coup, voilà, il y a un partage. Et du coup, par moment, ce qui se partage, c'est les textes en amont, c'est les projets, c'est les discussions sur ce que c'est que le geste artistique, etc. Après, en termes de production, par moment, ça devient des objets effectivement indépendants. Et une fois qu'on est en répétition, les autres viennent et ils sont regard extérieur, etc. Mais ils ne sont plus partie prenante des choses. Moi, j'ai vu Aquila quasiment à la fin. Je n'avais pas vu d'étape, quoi.
Et vous vous êtes rencontrés il n'y a pas si longtemps, c'est ça, en espèce de séminaire, le collectif Lumière d'Août?
Alors, on fait, c'est justement un des principes pour rester quand même un peu ensemble et partager justement ce qu'est le fond de l'affaire, qu'est le propos artistique, aussi le propos politique, comment on bouge dans une époque, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent que nous donne la DRAC, la région, le département, la ville. C'est des questions qu'on discute ensemble, voilà, sur ce qui nous paraît juste. On a des grandes discussions sur est-ce qu'il faut accepter de ne pas payer les cotisations, puisqu'on nous propose de ne pas payer les cotisations. Et par exemple, dans le collectif Lumière d'Août, c'est un sujet parce que ça nous embête, parce qu'on estime que c'est l'avenir, les cotisations. Donc, c'est un cadeau qui nous paraît très empoisonné. Donc, par exemple, on peut passer 3 heures sur ce sujet pour voir comment on va se démêler avec ça, parce qu'on est aussi, du coup, des employeurs. Une compagnie, c'est des employeurs. Lumière d'Août, c'est 40 employés par an. Intermittent, donc ça peut être 8 heures ou quelqu'un qui va faire 300 heures avec nous. Enfin, voilà.
Et la dernière fois qu'on a parlé du théâtre du cercle dans l'émission, il s'agissait du travail des Veilleurs au Grain et de Gwenola Lefeuvre, une clown qui était accueillie chez vous. Et aujourd'hui, vous recevez 2 auteurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la programmation et des intentions artistiques du théâtre qui sont pluridisciplinaires et pluriformes?
Oui, alors il y a quand même quelque chose qui sous-tend la programmation au Théâtre du Cercle, c'est l'écriture théâtrale contemporaine. Le projet du Théâtre du Cercle a été écrit par un auteur il y a quelques années qui est Sylvain Levet. Et donc on garde un petit peu cette ligne directrice de travailler sur le texte et le texte contemporain. Après, on ne s'interdit pas des escapades. La case théâtre, elle est vaste. Et on va aussi vers le clown, le mime, le théâtre d'objets et la marionnette.
D'accord. Et depuis octobre dernier, tous les lieux culturels sont fermés. Et Emmanuel, comment on garde un théâtre vivant alors que ses portes sont closes ?
Oui, c'est un petit peu une phrase que je garde avec moi depuis un an pour essayer de tenir. C'est que le théâtre est fermé, mais vivant. Je me suis amusée à compter. On est à 419 jours sans spectacle au Théâtre du Cercle hier, donc 420 aujourd'hui. C'est pas parce qu'on n'est pas ouvert au public qu'il ne se passe rien. Et donc, depuis un an, on continue à travailler avec des artistes en résidence. Chaque semaine, il y a au moins 2 projets accueillis en résidence que les artistes ont besoin de continuer à travailler, à expérimenter, à chercher, à se retrouver pour être prêts quand on va enfin réouvrir. Au niveau de la pratique amateur, on a aussi eu la chance de pouvoir continuer avec les enfants, avec les mineurs, en présentiel quasiment non-stop depuis octobre, sans savoir comment ça va finir, comment on va finir l'année. Et avec la pratique amateur adulte, c'est plus compliqué, plus douloureux, parce qu'ils sont en visio depuis début octobre. Mais grâce au travail des artistes intervenants, on garde le lien par ces visios, par du travail autour de la culture du théâtre, par des lectures de textes, par des échanges aussi beaucoup plus approfondis en fait sur l'essence du texte et l'essence même du théâtre. Et puis maintenant qu'il fait beau et qu'il commence à se retrouver dehors par demi-groupe, voilà, on respecte aussi tous les cadres qui sont demandés. Mais c'est ça qu'on essaye de faire, c'est de garder le lien humain en fait et intrinsèque pour pouvoir après ensemble pouvoir redémarrer.
Mais je pense que c'est une question qu'on peut aussi vous adresser, Alexis. Comment on continue à créer sans public et sans date de représentation, sans perspective de,
Ouais, c'est quand même dur. Hein. C'est vrai que moi, je dis toujours que c'est compliqué parce qu'en plus, moi, j'ai l'intermittence. Donc, on estime qu'on n'a pas trop le droit de se plaindre par rapport à plein d'autres gens qui sont impactés beaucoup plus violemment. Mais d'un point de vue symbolique et du point de vue du travail de la matière, c'est très dur. Nous, on avait une création qui devait se faire au Triangle dans le cadre du festival TNB en novembre, qui a été reportée en mai et qui donc là est à nouveau annulée et non reportée, par exemple. Donc, c'est des choses qui ne sortent pas du tout. Et du coup, c'est quand même de ça qu'on vit intimement et se remettre à chercher, parce qu'une des parts du travail, c'est beaucoup de chercher des productions, etc. Et retourner chercher des productions, appeler des gens dans un moment en plus où tout le monde est déboussolé et saturé, alors qu'on n'a pas joué le précédent, par exemple. C'est extrêmement dur et violent, si bien que moi, par exemple, j'ai arrêté d'essayer de vendre les spectacles suivants, ce qui n'est peut-être pas très bon. Mais... Et du coup, moi, par exemple, mais là, je peux parler que pour moi, c'est vrai que je passe beaucoup plus de temps à écrire. Bon, c'est lié aussi au fait que je viens de sortir le roman, donc il y a une dynamique là-dessus. Mais je me fais un peu plaisir aussi, puisque c'est une chose que j'aime faire. J'écris davantage et je fais concrètement moins de théâtre. Les ateliers, Emmanuel en parlait, ça a été le peu que j'en avais, ça a été assez usant et difficile parce qu'on commence en visio. Alors avec les adultes, on a été complètement arrêtés. Avec les étudiants, ça changeait tous les 15 jours de règles. Et c'est vrai que pour eux comme pour nous, c'est très difficile de trouver l'endroit où on va au moins partager quelque chose, quoi. Donc, voilà. Donc moi, j'ai pas mal écrit.
Moi, je voulais rajouter que sur la pratique amateur, ce qui est aussi douloureux pour nous, c'est qu'on sait que pour la majorité d'entre eux, leur atelier de théâtre, c'est un petit peu une bulle dans nos vies. Dans leur vie, c'est l'instant pour eux. Et que là, on n'était plus en capacité de partager ça. Ça a été douloureux pour tout le monde. Et par rapport aux artistes, nous, on a mis en place, on a quasiment transformé toutes les représentations, toute la programmation qui était prévue par des présentations professionnelles, pour que justement le lien entre les programmateurs, les directeurs de structure, les institutions et les artistes en création puisse perdurer aussi un petit peu. Donc c'était des moments un peu... on avait l'impression d'être un peu en clandestinité, enfin on avait le droit de le faire, mais de se dire on était quelques-uns à profiter de ces spectacles-là pour que l'artiste puisse continuer son chemin et qu'après on puisse en faire profiter tout le monde. On n'attend que ça.
Et dans quel état d'esprit on est avec tous ces embouteillages-là? Parce qu'il y a de plus en plus d'articles qui sortent en disant que là, il y a 400 films qui attendent de sortir au cinéma et il y en a autant pour les théâtres.
Ouais, je pense que le cinéma, c'est le pire, hein, parce qu'effectivement, il n'y a pas de marge. Sur le théâtre, on est, c'est ce que je dis, on est... On est un peu désespéré. il y a quand même, faut essayer de reporter son énergie ailleurs. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses aussi qui vont s'inventer, mais on peut pas non plus travailler que dans les marges. C'est-à-dire qu'en réalité, l'embouteillage, il est là. Évidemment que c'est les gens qui sont déjà artistes associés ou déjà très liés à des lieux qui sont reconduits un peu systématiquement, ce qui est normal parce qu'ils sont en discussion. Et donc, quand on était le projet qui allait compléter une année ou le projet, on saute tout simplement. Et je dis ça à mon endroit où je ne suis pas la plus petite compagnie. J'ai une compagnie qui a des reins solides parce qu'on est nombreux, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie violence de ça, de ne pas savoir du tout et d'avoir des réponses, et on les comprend, de gens qui programment mais qui disent je sais pas là avant 2023 ce que je peux te dire. Donc on se dit mais on va faire quoi, parce que là on a répété, mais il y a un moment on va pas passer 3 ans à répéter. Moi ça n'a pas de sens, j'attends le public. Donc là moi c'est vrai que j'invente des projets un peu plus marginaux parce que j'ai besoin de trouver des manières de retrouver les gens. Mais donc il y a des choses qui s'inventent. On a toujours fait ça à Lumière d'août, hein, de faire des trucs bizarres à côté, etc. Mais on aimerait quand même avoir cet endroit, des spectacles en salle. C'est pas simple. Enfin, faut quand même dire qu'il y a une espèce de ravage dans une année comme ça. On se prend des coups. Après, il faut trouver comment on en sort bien. Mais évidemment que ça laissera des traces.
C'était la question piège. Puisque moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. Je ne sais pas comment je vais... qu'est-ce que je vais pouvoir présenter, comment il y a l'envie, et puis c'est la posture aussi du Théâtre du Cercle de créer une fidélité avec des équipes artistiques. Nous, on n'est pas un lieu de diffusion, on est un lieu de création, donc souvent on accueille quand même les projets au début de leur vie. On ne les a pas accueillis, donc ils n'ont pas eu de vie non plus. Donc, il y a le désir d'être fidèle et puis d'accompagner ces équipes-là, évidemment. Et puis, en même temps, il y a les projets qui étaient sous-jacents depuis un an ou deux, qui sont venus travailler au Théâtre du Cercle. Donc, je ne sais pas comment on va trouver place. Et puis, il y a aussi, nous, on a une mission de regard vers l'émergence. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces artistes dits émergents et qui sont là, qui existent ? Donc, là aussi, c'est une grosse question et pour l'instant, je ne sais pas.
Eh ben, on va entamer notre deuxième pause musicale ici et pour continuer à filer la métaphore culinaire, on attaque l'entremets musical avec Chesky and Wood et I Have You, un morceau choisi par Alexis Fichet.
Nous sommes dans Tonnerre de Brest sur Syllabe et nous venons d'entendre Chesky and Wood avec I Have You avant de parler ensemble de la balade littéraire de ce dimanche. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette musique, Alexis Fichet ?
Parce que c'est hyper dur à prononcer.
Tellement.
Parce que Chesky and Wood, donc Marina Kelchevski, c'est une actrice avec qui on travaille beaucoup dans Lumière d'août. Et puis parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup, donc voilà.
Très jolie chanson.
Dans la newsletter du collectif Lumière d'août, vous faites une énumération de tous les spectacles qui auraient dû être joués, comme Aquila, Le Tissu d'Antigone, Circulation Capitale, Shifumi Plage, Le Manuel littéraire du Retour en Forêt, ou encore Sœur, et ça s'écrit TCH. Vous faites également part de la publication de deux ouvrages. Le premier, Deux fils de Laurent Quinton, un recueil de deux pièces de théâtre que vous pouvez retrouver aux éditions Poncerque.
Alors, ce n'est pas vraiment des pièces, c'est des espèces d'essais. En fait, il est parti, d'analyse filmique sur deux films, sur Pinocchio et Frankenstein. Et ça dérive progressivement vers un côté beaucoup plus personnel. Il raconte un peu des choses de la vie de prof. Mais en faisant vraiment une analyse filmique de ces vieux films qui sont des années 30.
Très bien. Et il y a aussi le vôtre, du coup, L'Andréide, édité chez La Mer Salée, éditeur nantais. Et même si on retrouve des similitudes entre le théâtre et votre roman, comment passe-t-on de dramaturge à romancier ?
Je crois que c'est un plaisir d'écrire. En fait, je disais que Lumière d'août s'est fondée avec un groupe de gens qui d'abord étaient des gens qui voulaient écrire. Laurent Quinton, dont vous avez parlé, écrit aussi du théâtre, mais quand on s'est rencontrés, c'est vraiment quelqu'un qui était passionné de littérature. À la fac, il était en littérature générale et il n'était pas du côté du théâtre. Et Juliette Pourquery-Boisserin, qui est aussi la sixième, écrit aussi beaucoup de récits. Et donc, on a cet ancrage en littérature depuis le début. Moi, j'ai beaucoup écrit de théâtre et j'ai toujours été tenté. Alors, j'écrivais des choses un peu bizarres, plus poétiques et des choses comme ça. Et j'ai quand même un roman et demi, on va dire, déjà derrière, qui n'ont pas été publiés, mais que j'avais déjà écrit. Il faut toujours, il faut écrire des choses qui ne marchent pas aussi. Pour moi, c'est un plaisir d'écriture. Il y a une espèce de... Il y a un côté parfois, que je préfère éviter. Enfin, je trouve que c'est libérateur d'écrire aussi du récit quand on est dans le théâtre, parce que le théâtre, il y a un côté, j'écris une pièce, puis je vais la mettre en scène. Donc, quand on écrit des pièces, on essaie de trouver des gens qui vont les monter. Enfin, il y a un côté où ça n'existe pas tout seul. Il y a quelque chose d'assez satisfaisant dans la nouvelle ou dans le roman. Alors, c'est un autre monde, donc il faut réussir à les publier, etc. Mais il y a une satisfaction aussi de cet objet qu'on peut directement donner à quelqu'un et qui peut lire. Et puis voilà, c'est vraiment tout un autre travail d'écriture que moi, je trouve absolument passionnant, qui demande aussi de rentrer dans un souffle plus grand, parce qu'une pièce de théâtre, c'est beaucoup plus du détail. Le théâtre, c'est vraiment un travail du détail, de penser... Le théâtre, c'est creuser. Il faut qu'il y ait des trous parce que c'est les acteurs, c'est les spectateurs qui vont remplir les trous. Le roman peut être creusé aussi, mais quand même, on accompagne beaucoup plus, on nourrit beaucoup plus. Donc voilà, c'est deux écritures différentes et qui, moi, j'ai beaucoup de plaisir à écrire les deux et j'ai beaucoup de plaisir à passer de l'un à l'autre et même souvent à avoir les deux en cours en même temps.
Mais du coup, comment est-ce que votre expérience de théâtre a nourri ce travail littéraire ?
Alors, je ne sais pas si elle a nourri. En tout cas, ce qui travaille, c'est le fait d'écrire. Ça, plus on pratique, plus quand même on comprend des choses. C'est vrai que mon travail de théâtre, parce que là, en l'occurrence, il y a plusieurs personnes qui me disent « Ah, mais c'est très théâtral, parce que c'est vrai que c'est très dialogué. » Je n'écris pas du théâtre du tout comme ça. C'est vrai que j'écris un théâtre avec très peu de personnages. Enfin, les personnages ne sont pas du tout constitués. Comme ça, comme des personnes réelles, avec des vies réelles. J'ai pas ce genre de dramaturgie. Donc, en fait, si j'écrivais du théâtre, je n'écrirais pas L'Andréide. J'écris un théâtre un peu plus abstrait, souvent, avec des personnages qui sont aussi des idées. Enfin, bon, c'est difficile d'expliquer ce que je fais avec une langue beaucoup plus travaillée, qui va être prise par les acteurs, et c'est les acteurs qui vont faire passer. Alors que là, le roman, c'est l'inverse. J'ai envie qu'il soit extrêmement lisible, que n'importe qui puisse s'en emparer et le lire. Et voilà. Après, ça vient donc d'une réécriture. Ce roman est la réécriture d'un roman du 19e siècle de Auguste Villiers de l'Isle-Adam, qui, pour l'anecdote, est donc originaire de Saint-Brieuc comme moi. Et lui a écrit un roman très, très dialogué. C'est-à-dire qu'en fait, les deux personnages principaux parlent énormément. Donc en fait, je l'ai suivi. Mais je ne m'étais même pas rendu compte que du coup ça donnait un côté théâtral en fait.
Le côté théâtral aussi, après c'est peut-être parce que je suis un peu spectacle, mais genre il y a six parties et les cinq premières parties sont un peu comme cinq actes d'une tragédie avec l'unité de temps, de lieu et d'action.
Oui, tout à fait. Ça, ça vient du huis clos qui est déjà effectivement présent chez Villiers aussi. Moi, je voulais qu'on prenne l'air quand même et tout à la fin. Il le fait un peu aussi. Mais oui, bien sûr. Et j'ai fait exprès parce que j'aurais pu faire autrement. J'ai fait exprès de faire 5 parties. En fait, les romanciers s'inspirent souvent de cette forme parce que c'est les formes les plus fortes. En fait, les formes théâtrales sont très structurées, alors que le roman, finalement, peut faire un peu ce qu'il veut. Donc, on a besoin de se dire, tiens, comment je vais constituer ça? Et ça aidait de constituer comme ça. Donc ça, c'est vrai.
Et puis la sixième partie, c'est au-delà, même dans le titre, on sait qu'on va partir partout.
C'est une conclusion. Ouais. Tout à fait.
Voilà. Et du coup, pourquoi avoir instigé cette collaboration entre le Théâtre du Cercle et ses auteurs que sont Alexis Fichet et Ronan Mansec?
À la fois, ça n'a rien de très original compte tenu de l'histoire qu'on a entre le Théâtre du Cercle avec à la fois Alexis Fichet et Ronan Mansec. Et puis, ça vient d'une envie, d'un désir et d'un hasard, comme quoi. En fait, tout ça est parti d'une part d'un moment où Alexis était en résidence au Théâtre du Cercle en tant que metteur en scène sur un prochain projet. Et puis, à ce moment-là, il m'a fait le cadeau de son roman que j'ai dévoré en un soir. Et tout à coup, je me suis dit, waouh, il m'a fait un cadeau, là, d'une écriture. Il me fait aussi un cadeau d'être au théâtre, de faire vivre le lieu avec ses comédiens. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, comment tout à coup on imagine de partager ça avec d'autres, parce que ça fait partie de mon métier et de la mission du théâtre, c'est de partager avec d'autres. Et je me suis dit, bon, on n'a pas le droit de faire de spectacle, ok. On n'a pas le droit d'être en extérieur parce qu'on ne peut pas réunir plus de 6 personnes, d'accord. Donc peut-être que la chose qu'on peut partager, c'est des mots, en fait. Et alors des mots, M-O-T-S, hein, parce que les mots, les autres, on les partage déjà assez. Ouais. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu un échange aussi avec Ronan Mansec, qui est souvent aussi un auteur fidèle au théâtre, dont on a monté une pièce précédente qui était Titon et la fille du matin. Et puis, je les ai appelés l'un et l'autre et je leur ai dit, voilà, j'ai une envie, j'ai un rêve, c'est de vous réunir tous les deux. Alors, ils se connaissaient, ils ont déjà eu l'occasion d'être réunis comme ça. Et puis, c'est en échangeant tous les trois que cette forme un peu hybride est née. Et on s'est dit, on n'a pas le droit de faire venir le public dans les théâtres. On n'a pas le droit de se réunir à plus de 6. Eh bien, on va faire dehors, à moins de 6, tout seul, les deux auteurs. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire partager leurs mots. Donc, ça n'a rien d'inventif. Hein. C'est vraiment de l'instinct de se dire, maintenant, on va utiliser les nouvelles technologies. On va... ils m'ont dit que leur maison d'édition leur avait proposé à l'un et l'autre d'enregistrer des extraits du texte. Donc les extraits existaient, ils ne demandaient qu'à être partagés, chuchotés à l'oreille de public. Et voilà.
Et du coup, c'est pas vous qui avez fait le choix des extraits ?
C'est ce que j'allais dire.
Oui.
si, parce que moi, mon éditrice, donc sur le site de la Mer Salée, il y a des podcasts. C'est un monde que je connais assez peu. Moi, je dois avouer que j'écoute la radio quand elle passe, mais mon éditrice me dit quand même, ça serait bien d'avoir un extrait, etc. Et du coup, elle m'avait dit si tu peux enregistrer un extrait comme ça en le lisant toi-même ou. Et donc je l'ai fait avec plaisir et donc voilà, mais c'est moi qui ai choisi l'extrait que j'ai lu qui en l'occurrence c'est le début, simplement j'ai un peu coupé parce que voilà pour qu'il y ait une espèce de petite cohérence dans le passage que je lis.
Du coup, la proposition artistique de dimanche, c'est une balade littéraire. À l'aide de vos écouteurs ou de votre casque, vous pourrez suivre un itinéraire balisé dans le Théâtre du Cercle en écoutant le texte de Ronan Mansec et celui d'Alexis Fichet. Alors, comment est-ce que cette forme de balade littéraire est venue? On en a déjà un peu parlé. À quelle contrainte ça répond? Du coup, aussi. Mais à quoi on doit s'attendre concrètement, finalement? On va vraiment être 6 tout seul?
Alors déjà, il faut s'attendre à rien du tout. Il faut se laisser porter. Et ce n'est pas au Théâtre du Cercle, puisqu'on n'a pas le droit de faire rentrer aujourd'hui le public dans les structures culturelles. Donc, on va être dehors. Donc, on a travaillé avec des bénévoles qui m'accompagnent sur le projet du théâtre à imaginer une balade dans le quartier. En plus, on a la chance d'être quand même dans un quartier qui est assez chouette pour se balader. Né au vent, avec les mots dans les oreilles. Donc, il a fallu être très réactif puisque on a eu l'autorisation de la ville et de la préfecture qu'il y a 10 jours. Donc, il fallait aussi monter un événement qui soit sans trop de contraintes pour être très vite mis en place. Et l'idée, c'est qu'on peut partir uniquement à 2 maximum. Ce sont des créneaux de 2 personnes et ça va être toutes les 5 minutes. Il y aura des départs qui partiront du Théâtre du Cercle, 2 maximum, et puis chemin au vent, cheveux au vent.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que, en fait, je ne sais pas si on l'a dit, mais l'idée de départ, c'est des dédicaces, en fait. Hein,
puisque, oui. Puisqu'en l'occurrence,
il y a 2 livres, donc le but, l'arrivée, c'est la dédicace. Okay. L'idée, c'était de, comme on ne peut pas être un gros groupe et être en train de discuter en buvant un verre, c'est qu'avant de nous trouver, il y a un petit parcours comme ça, un peu sympa, pour partager. Et après, on se voit quand même en vrai à la fin, et il y a un moment de partage.
C'est ça, parce que les gens, c'est donc cheveux au vent et c'est cerise sur le gâteau. Ouais. À la fin de la balade, il faut compter, on estime entre 20 et 25 minutes en fonction si les gens sont des bons marcheurs. Il n'y a aucune difficulté, hein. C'est vraiment tranquille. À la fin, il y a un lieu de rendez-vous où il y aura les 2 artistes qui seront présents. Et puis, on a du coup monté un partenariat avec la librairie
de
la Nuit des Temps à Rennes, qui vont apporter des livres. Et donc, nous, ce qu'on propose au public, c'est de ne pas acheter le livre avant, mais de vraiment découvrir le texte et les mots, se donner envie comme ça par l'écoute, par ces voix, de rencontrer les artistes. Et ensuite, vous pourrez donc sur place acheter les livres et puis échanger, discuter, les faire dédicacer, voilà.
Mais du coup, est-ce que vous pensez que c'est un format que... Enfin, je ne sais pas où vous en êtes du travail, si vous avez déjà fait des essais ou pas. Mais est-ce que vous pensez que c'est un format qui va se renouveler? Parce que c'est quand même assez intéressant pour faire écouter des voix, les créations radiophoniques.
Alors, je n'avais jamais fait ça encore. Donc, c'est vraiment le contexte qui a amené cette expérimentation. Après, au Théâtre du Cercle, on est assez friand des expérimentations, des expériences, de tenter des trucs. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, c'est bien aussi. Donc, on verra. Mais peut-être, oui, qu'on continuera des formes comme ça plus tard.
Moi, c'est assez intéressant. La question du théâtre et d'écouter des choses dans les oreilles, ça s'est fait déjà pas mal. Et ce qui est marrant, moi, pour l'avoir fait, c'est qu'il faut pas mal contrôler les choses. Parce que si, par exemple, le parcours est un peu compliqué, les gens n'écoutent pas. Donc, par exemple, on peut assez vite se perdre. Là, c'est pas grave, puisque le but, c'est que les gens achètent les livres. Enfin, ça fait partie de la dédicace, normalement. Donc, s'ils n'achètent pas, il n'y a pas de problème. Hein, mais voilà, le but, c'est d'écouter. Et s'ils ont écouté vaguement, ils reliront ces mots-là. Quand on veut qu'un groupe soit très attentif. Alors, bon, moi, c'était un peu spécial. J'avais fait un truc sur les zombies la nuit, un texte de Laurent Quinton, qui a écrit Deux Fils. Et les gens avaient le monologue qui explique la zombification du monde dans les oreilles. Et ils marchaient dans la nuit. Et en fait, ils me disaient, on n'écoute rien parce qu'on est persuadé qu'on va nous sauter dessus à chaque instant. Donc, beaucoup de spectateurs n'avaient rien entendu du texte. Mais ça, c'était présent quand même. Mais il faut avoir conscience que dès lors qu'on est en déplacement, plus écoute, c'est déjà... Donc, c'est très intéressant, mais ça demande du boulot.
Oui, puis ce n'est pas une écoute qui est présente. Ce n'est pas quelqu'un qui s'adresse...
Voilà, c'est... Alors, mais on peut choisir une adresse. Il y a plein de formes de ça. Hein.
Et du coup, si j'ai bien compris, c'est toujours chuchoté ou pas forcément?
Non, là, c'est lu, c'est des lectures.
C'est tranquille. Okay. Ce sont des lectures tranquilles. Il n'y aura pas à sursauter. Non. C'est vraiment très instinctif comme proposition. Et ce qui sous-tend la proposition, c'est vraiment de enfin retrouver l'écoute des mots, la rencontre avec des auteurs, le plaisir de lire après, de se souvenir et de partager un moment autour du texte, quoi.
Et du coup, même si tout ça reste encore très incertain, pour les semaines à venir, pas la balade, hein, mais la suite, est-ce que vous avez déjà prévu des événements pour marquer peut-être la fin de l'année au Théâtre du Cercle?
Ouais. Alors, c'est prévu. Maintenant, comment dire, j'ai changé de prénom. Je m'appelle moi-même Pénélope depuis 1 an. Donc, j'essaye de ne pas aller trop vite pour ne pas faire et redéfaire les choses. Donc, on a changé aussi de façon de fonctionner. Donc, à la fois avec les artistes intervenants et l'équipe de bénévoles, on réfléchit à ce qu'on va pouvoir faire d'ici l'été. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on fera quelque chose. On s'est donné comme point de départ de pouvoir être très réactif. C'est-à-dire qu'on sait qu'on... Moi, je pense qu'on sait qu'on sera en capacité... en moins de 15 jours, de monter quelque chose à la fois sur les pratiques amateurs, parce que ça fait quand même 2 ans, enfin 2 fins d'année qu'il n'y a rien pour finir l'année. Donc, on s'est dit que pour nos amateurs, on allait prévoir quelque chose qui marquerait la fin de l'année et qui ferait que leur envie de théâtre ne va pas finir comme ça, s'écraser encore une fois. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre. On y réfléchit actuellement, mais il y aura quelque chose. Et puis, moi, je rêve de pouvoir faire une petite programmation au public, tout public et scolaire, d'ici les vacances de juillet. Mais avant début mai, mi-mai, je bouge pas.
Eh bien, c'est ainsi que s'achève notre émission. Merci à Emmanuel Paty et Alexis Fichet d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle qu'on peut les retrouver ce dimanche à partir de 15h pour une balade littéraire autour de l'œuvre romanesque L'Andréide et du texte de Renaud Mansec, Le gardien de mon frère.
Pour y assister, la réservation est obligatoire et la jauge est limitée. Un départ s'effectuera toutes les 5 minutes pour une balade entre 20 et 30 minutes, à l'issue de laquelle vous pourrez rencontrer les deux auteurs pour une dédicace de leur ouvrage.
On remercie également Adèle qui a assuré la réalisation de l'émission aujourd'hui.
Enfin Brest, on se retrouve la semaine prochaine avec Ars Nobadis pour parler création sonore dès 19h sur les ondes de Syllab. D'ici là, portez-vous bien et des bisous.
Des bisous.
Merci.
Merci.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.